Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal des auditeurs, votre émission de débat et de libre expression sur Africa Radio. Aujourd'hui, pour commencer cette semaine, nous attendons vos réactions et commentaires autour de cette question. Le miracle rwandais est-il un leurre? Le miracle économique plutôt. Une enquête du quotidien britannique Financial Times accuse le pays des mille collines de fausser ses statistiques économiques, notamment en termes de réduction de la pauvreté. Alors qu'en pensez-vous? Et puis comment mesure-t-on le taux de pauvreté d'un pays? Quels sont les indicateurs pertinents selon vous? Pour participer à l'émission, le numéro du standard, c'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Mais vous pouvez également nous envoyer des messages sur le WhatsApp d'Africa Radio. Notre numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Avant cela, voici le répondeur d'Africa Radio et vos messages surtout.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Ce monsieur qui dit que Arafat fume la drogue, que c'est un exemple, etc., etc. Je dis à ce monsieur, ce sont des gens-là, ce sont des méga giga stars. J'ai pas dit que ce sont eux qui chantent le mieux, hein, qui chantent bien, mais c'est une étoile. Ce sont des stars. C'est comme ça. On peut rien faire. Vous pensez que c'est là, Kouti, au Nigeria, c'est lui qui chante le mieux? Non, mais c'est lui, c'est la star, c'est le roi qui ne peut rien faire. Et c'est là, il est un exemple, vous savez combien de femmes, combien de drogues. Mais arrêtez un peu, arrêtez de saler la mémoire des gens. Les Guinée Brise, vous savez combien ils sont morts? Vous parlez de drogue. Oh, les Elvis Presley, vous savez combien ils sont morts? Regardez, vous allez voir Michael Jackson, tout ça. Regardez, vous allez voir. Vous croyez que Michael Jackson a fait un accident? Ils sont comme ça. Merci.
Bonjour Africa Radio, bonjour Madame Hartmann. J'appelle en fait pour réagir au propos de Maroudia. Alors Maroudia, il a bien fait hein, d'être interpellé par les propos d'une journaliste sur la télé qui relevait des aspects positifs de la colonisation. Alors c'est bien, mais moi je voudrais qu'on perde moins notre temps sur ça parce que nos chefs d'État, les premiers sont là à vanter tous ces aspects-là, et ils sont les premiers à le dire, donc d'aller s'en prendre à une pauvre de leur vie, pour moi, c'est des combats inutiles. Cette commémoration, pour moi, c'est juste du marketing, du lifting, parce que pendant qu'on fait la commémoration des soldats qui sont morts pour une guerre passée, d'il y a longtemps, et qu'il faut d'ailleurs rappeler si c'est vrai, on est en train de laisser se faire tuer des soldats réguliers dans des pays en Afrique aujourd'hui, au Mali, au Nigeria, en Centrafrique. Bon, moi, j'estime que c'est vraiment quelque chose d'alambiqué. Ça sert à rien de se battre pour faire reconnaître des choses du passé alors qu'il se passe la même chose aujourd'hui, pire aujourd'hui, sous nos yeux. C'est un combat inutile. Donc, arrêtez de vous battre pour des petits mots, des petites choses et dénoncer ce qu'il y a concrètement aujourd'hui en Afrique.
Bonjour Stéphanie, bonjour Docteur d'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Au Zimbabwe, le clan Mugabe avait fait chuter Mugabe. Ils l'ont forcé à démissionner, ils ont profité de son état de santé qui l'avait affaibli, et ils ont fait croire au peuple que voilà, nous voulons que les choses changent parce que Mugabe, il s'accapare de tout avec sa femme, sa famille, genre, voilà. Maintenant que Mugabe est parti, et rien ne change. Là, au Zimbabwe, la population pleure de faim et l'opposition regrette même l'ère Mugabe. Vous imaginez? Les opposants qui étaient contre soi-disant Mugabe, mais aujourd'hui, ces opposants regrettent Mugabe. Ils disent que nous, on préfère même Mugabe à son époque que l'époque de, comment on appelle celui-là, ça m'a été difficile de me prononcer là. Oui, donc des fois, ça sert à rien de précipiter les choses. Donc le peuple, j'avais dit, c'était pas la victoire du peuple, parce que c'était pas le peuple qui avait fait partir Mugabe, c'était le clan Mugabe, sa famille politique, qui l'avait fait chuter pour qu'il profite de la situation. Et voilà aujourd'hui.
Oui, Africa numéro 1, bonjour, Jean-Louis Méga. J'appelle par rapport au gouvernement en lui et moi du Togo qui tarde à venir. Je voudrais dire ceci d'emblée, j'ai dit bien, j'ai bien complet, c'est un non me venu. C'est un non me venu. Donc, Chilombo et Kabila ont pris le Congo en otage.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous posons cette question. Le miracle économique rwandais est-il un leurre ? Une enquête du Financial Times estime que les chiffres du taux de pauvreté ont pu au moins une fois être manipulés en 2014. Alors, qu'en pensez-vous ? Le miracle économique rwandais est-il à relativiser ? Pour commencer la discussion, nous posons sans plus tarder la question à Patrick Boyot, enseignant-chercheur. Patrick Boyot, bonjour.
Bonjour, c'est Fanny Hartmann, bonjour aux auditeurs.
Alors, selon le Financial Times, le Rwanda est devenu la fiancée préférée de la communauté de développement. En effet, beaucoup d'observateurs soulignent la bonne gouvernance de Paul Kagame, salue la croissance de plus de 7%. Mais, selon le quotidien financier britannique, les chiffres, comme les opposants, doivent se plier à la volonté de Paul Kagame. La manipulation des statistiques, et notamment du taux de pauvreté, vous paraît-elle possible, Patrick Boyot ?
Oui, c'est bien possible de pouvoir manipuler les données qu'on appelle indicateurs économiques, parce qu'il faut préciser que par indicateurs économiques, on entend des statistiques qui agrègent des indices précis qui permettent d'évaluer le niveau de pauvreté ou le niveau de progrès économique réalisé dans tel ou tel domaine, dans un pays précis, pendant une période déterminée. Et cela se fait à un niveau précis parce que les politiques de développement sont réparties en deux points. Premièrement, le choix des stratégies adaptées et cohérentes pour pouvoir mener un programme particulier en collaboration avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Et le deuxième point, c'est là où la manipulation intervient, c'est quand il s'agit de convertir ou de traduire l'impact des politiques menées en chiffres. C'est là que la conversion devient problématique, tantôt par volonté de manipuler, ou tantôt aussi par simplement incommodité ou incapacité de pouvoir trouver des compatibilités entre deux indices comparables.
On verra tout à l'heure effectivement les indicateurs utilisés pour mesurer la réduction de la pauvreté, mais montrer du doigt, la Banque mondiale a réagi, et la Banque mondiale précise dans son communiqué qu'il y a des différences de méthodologie pour mesurer la pauvreté, et que ces différences sont communes à tous les pays, incluant les pays développés eux-mêmes. La Banque mondiale parle d'un sujet complexe et elle ajoute ceci, il n'y a pas une seule bonne manière pour estimer la pauvreté. Elle dit que ça dépend des contextes, voilà ce qu'écrit la Banque mondiale, entre autres. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs et on accueille Archéduc. Archéduc, bonjour. Allô, Archéduc ?
Oui, alors bonjour la radio Africa.
Bonjour Archéduc, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on essayait de vous avoir dans le JDA, vous inscrivez régulièrement, on a toujours du mal. Vous êtes du côté du Tchad, Archéduc, je crois, c'est bien ça.
Oui, je suis en N'Djamena au Tchad.
D'accord. Alors, vu de N'Djamena, que pensez-vous justement de ces révélations du Financial Times ? Le miracle rwandais vous semble-t-il un leurre ?
Oui, pour moi, certains critères comme le revenu, les avoirs matériels, l'accès aux moyens luxueux pour définir la pauvreté en Afrique sont des indicateurs biaisés car l'Africain ne déclare pas tout par peur d'être réduit soit par l'impôt, soit par des attaques de brigands ou autres. Aussi, les gouvernements ne disposent pas des moyens pour rendre le contrôle de ces indicateurs fiables. D'ailleurs, les familles les plus riches ne déclarent pas parfaitement leur richesse et aucun moyen de contrôle existe. Puis, certains riches refusent d'être évalués ni déclarés. Derrière certaines richesses en Afrique, se cachent des biens mal acquis et le système d'évaluation n'est pas efficace.
Pour vous, on a du mal à mesurer la richesse, hein. Vous l'avez dit, Archédique, hein, selon vous. Hein. Tous les riches, hein, vous avez dit, hein, ne déclarent pas leurs revenus. Merci, Archéduque, hein, pour nous avoir donné votre point de vue depuis le Tchad. Alors, selon Youssouf, hein, Marangwa, hein, qui est directeur général, hein, de l'Institut national des statistiques du Rwanda, les chiffres de réduction de la pauvreté sont sans équivoque. Et il est précisé, hein, quand même, qu'avant de mieux rendre compte des habitudes, afin plutôt de mieux rendre compte des habitudes quotidiennes des Rwandais, le panier de biens utilisés, hein, pour calculer le seuil de pauvreté était mis à jour pour la première fois en 2014. Alors, c'est justement cette année, hein, qui est pointée du doigt par les enquêteurs, hein, les journalistes du Financial Times. Patrick Boyon, est-ce qu'on peut ajouter, c'est ce qu'a fait d'ailleurs, hein, le Rwanda quand il a réagi, hein, dans plusieurs éditos de la presse rwandaise, on a lu ceci, hein, de dire finalement qu'il n'y a pas que la Banque mondiale, hein, qui numérise les bons résultats du Rwanda. On peut citer également le Fonds monétaire international ou d'autres instituts comme les agences de notation Standard & Poor's. Est-ce que ça relativise finalement les propos, l'enquête du Financial Times ?
J'aimerais bien préciser le contexte pour que nos auditeurs comprennent. Il ne s'agit pas d'indexer ici les indicateurs économiques du Rwanda dans leur globalité. Puisqu'il faut savoir que depuis 1999, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont adopté un principe, c'est que chaque programme qui est financé par le FMI ou la BIRD doit s'appuyer sur un programme, une stratégie de lutte, de réduction de la pauvreté, lutte contre la pauvreté ou réduction de la pauvreté. C'est justement au niveau de cette stratégie, de cette politique de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté, que le Rwanda a manipulé ses statistiques. Ce n'est pas sur les autres données économiques. J'aimerais que ça soit bien clair sur ce point. Et pourquoi, à ce niveau-là, on peut estimer que l'étude de Financial Times est tout à fait pertinente? Parce que le Rwanda, il faut savoir, a élaboré deux stratégies quinquennales de développement économique et de réduction de la pauvreté. La première stratégie, c'est SDRP2, qui a été élaborée entre 2008 et 2012. Et la deuxième stratégie, SDERP-2, élaboré entre 2013 et 2018. Le Financial Times a bien entendu la fin de ces deux stratégies afin de pouvoir comparer les chiffres. On peut bien voir que sur la première période, la première stratégie, sur le premier quinquennat 2008-2012, les chiffres étaient plus ou moins cohérents. Mais sur la deuxième stratégie, les chiffres ne sont pas du tout cohérents. De sorte que si on analyse par exemple la politique en matière d'agriculture, une agriculture tournée vers le marché, comment le Rwanda peut élaborer une ligne de stratégie dite pour une agriculture tournée vers le marché, alors que le Rwanda lui-même bénéficie d'un soutien alimentaire pour sa propre population.
C'est ce qu'on a pu lire, effectivement, Patrick Boyon, il y a quelques mois, aussi dans la presse, en disant, voilà, finalement, c'est aussi la politique agricole qui pénalise peut-être la lutte contre la pauvreté au Rwanda. Vous venez de le dire, hein, une politique agricole basée sur le marché, ce qui signifie qu'on privilégie les cultures d'exportation, soit la monoculture. On est bien d'accord, Patrick Boyon ?
Non, en fait, c'est un leurre, justement, vous avez bien changé votre mot, c'est un leurre dans le sens où on veut donner l'impression que le Rwanda est capable d'avoir une agriculture de marché, c'est-à-dire de vendre ses produits agricoles, alors que sa propre population meurt de faim. Et sa propre population bénéficie d'aide, des appuis d'autres organismes qui sont spécialisés et qui sont financés en même temps par la Banque mondiale. C'est pour cela que les agents de la Banque mondiale ont trouvé ça paradoxal. Vous présentez des chiffres mirobolants pour le pays, alors qu'en même temps, nous sommes en train de financer la malnutrition, l'extrême malnutrition de sa population. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que justement les agents de la Banque mondiale ont dénoté, ils ont révélé, c'est ce que France 24 avait révélé, vos confrères ont révélé en 2015, et c'est ce que nous autres on ne cesse de dire depuis plusieurs années en tant que...
Alors, est-ce qu'on peut dire, Patrick Boyon, finalement, que ce miracle rwandais est surtout à relativité à cause des disparités entre Kigali, la capitale, et le reste du pays, encore très agricole, et où on trouve, hein, parfois des famines régionales, justement?
Oui, vous vous avez tout à fait raison de pointer cela, que Kigali constitue aujourd'hui la vitrine que le Rwanda veut vendre au monde entier. À part Kigali, vous ne trouverez aucune ville qui a des dimensions ou qui offre une vitrine plus ou moins agréable du Rwanda. Il n'y a que Kigali où tout ça se passe, où tout se fait. Et une partie aussi de Kigali simplement qui va de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Mais en dehors de là, on sort, on vit une extrême pauvreté, une situation incroyable. Et posez-vous la question, quand le Rwanda avait fermé la frontière avec la RDC, une demi-journée seulement, quand Ebola a été déclaré à Goma, pourquoi le Rwandais ont vite, ou le Rwanda a très vite ouvert sa frontière après? Parce que les populations rwandaises qui sont dans le secteur des Gisenyi et autres dépendent essentiellement de cette
partie. On connaît le commerce beaucoup à la frontière.
Paradoxalement, ce qui peut être pareil, c'est parce que le Congo est présenté comme un pays pauvre et le Rwanda un pays riche. Mais vous voyez un pays riche qui tout de suite ferme sa frontière et aussi est obligé de la rouvrir parce que sa population a besoin que cette frontière soit rouverte pour son intérêt, pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'au-delà de Kigali, il n'y a rien qui est fait pour la population rwandaise.
Merci Patrick Mboyo pour ces éclairages et ces précisions. Vous souhaitez intervenir, poser vos questions à notre invité, nous donner votre avis sur la situation économique du Rwanda, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. On retourne au Tchad, retrouver Ozana. Ozana, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à vos fidèles auditeurs de Radio Africa.
Alors, Ozana, je ne sais pas si vous êtes au marché, mais il y a du monde autour de vous et on ne vous entend pas très bien.
Bon, je suis dans la voiture en déplacement.
Ah. La voiture ou le bus?
Oui, le bus en déplacement.
On entend tout le monde dans le bus. Bon, super. On va vous écouter rapidement, Ozana. Vous vouliez parler des indicateurs économiques pertinents pour mesurer la pauvreté. Et vous dites qu'il y en a principalement un, c'est l'indice de développement humain, l'IDH.
Voilà, c'est ça. Quand on veut parler de la pauvreté, il faut surtout voir du côté des IDH, qui est beaucoup plus basé sur l'alimentation, l'accès aux soins et la formation. Et du moment où on n'a pas accès à un bon soin, on n'a pas accès à une bonne formation, on n'a pas accès à une bonne alimentation, on ne peut pas parler maintenant qu'un tel pays est à l'abri du pauvreté. Donc, c'est de la propagande que nos dirigeants font. Surtout concrètement sur le terrain, on ne voit pas quelque chose de concret. Donc pour parler maintenant qu'un pays est développé ou un pays en voie de développement, il faut voir surtout les idées. C'est un facteur très nécessaire, un facteur valable pour voir maintenant la condition de vie des citoyens. Et c'est là qu'on peut se référer pour dire maintenant ou faire une déclaration. Mais ce qui se passe avec nos dirigeants, moi je pense que c'est de la propagande. Et concrètement sur le terrain, le conseil n'est pas de bon le point.
Bon, donc, je pense qu'on a compris, Ozana, le principal message, mais on ne vous entend pas très bien. À cause du bruit autour. On vous salue, Ozana. Bon trajet.
Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous.
À bientôt, Ozana, auditeur fidèle du côté du Tchad. Merci beaucoup, Ozana, dit finalement, il y a des indicateurs, Patrick Mboyo, on parlait d'indicateurs économiques, vous l'avez dit, avec les stratégies de développement, mais aussi des indicateurs sociaux, on va dire, pour mesurer la réduction de la pauvreté. Alors, Ozana parlait de l'IDH, l'indice de développement humain qui prend en compte l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, mais aussi les revenus. De ce point de vue-là, on peut dire que le Rwanda est aussi un bon élève ?
C'est à relativiser. Je dirais pas non.
On vous entend mal, Patrick. Ça, la
oui,
ligne se...
Vous entendez ça ?
Allez-y, on va essayer.
Je disais que c'est tout à fait relatif dans le sens où l'indice de développement humain a été élaboré par
Non, on ne vous entend plus, Patrick. La ligne, on n'a plus de réseau. Alors, avec Edouard, je vous laisse entre les mains de notre standardiste, Edouard, pour voir. Voilà, il va voir ça. Il va voir si Patrick a du réseau. On va écouter Thierno dans un instant. 33 1 55 07 58 100. Votre avis hein, sur le miracle rwandais vous nous intéresse. Alors, on peut quand même noter, je posais la question des indicateurs socio-économiques à Patrick Mboyo. Il faut noter que selon l'UNICEF, hein, le taux de scolarisation atteint 98% au Rwanda et que c'est le quatrième pays hein, du continent dans le classement de Transparency International. C'est-à-dire hein, que l'indice de corruption y est relativement bas. On va demander à Tierno ce qu'il en pense. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie, et bonjour à l'ensemble des amis auditeurs et auditrices d'Africa Radio. Je ne sais pas si vous me recevez très bien, mais je vais aller directement au sujet.
On vous entend, allez-y.
Je ne crois pas à la sincérité de ceux qui ont mené ces enquêtes en accusant le Rwanda d'avoir fauché sur les statistiques économiques. Moi, je pense que le Rwanda n'a pas besoin, le Rwanda n'a pas besoin de fausser. Parce que je ne suis pas très fort en économie pour voir les indicateurs ou autres, mais j'ai des propres bases propres à moi-même, là où je peux faire des indices de développement ou bien des performances économiques d'un pays. Ces cinq dernières années, si on prend l'exemple sur l'immigration, ça, c'est automatique, on va comprendre que vraiment le Rwanda est à l'abri des besoins. Vous voyez, nulle part dans les côtes, ça soit dans les golfes d'Aden ou bien sur la Méditerranée, vous verrez un jeune Rwandais est là. Vous verrez nulle part en Europe de Rwandais, un nombre de demandeurs d'asile. Ça prouve suffisant que les Rwandais, aujourd'hui, ils sont vraiment à l'abri des besoins. Il y a des performances économiques qu'on ne peut pas nier. Donc, sur le plan politique, il y a un problème. Mais économiquement, le Rwanda n'a pas besoin qu'on les médiatise ou bien qu'on les félicite ou bien qu'on fait des enquêtes démagogiques pour faire plaire à quelqu'un. Vous savez, le problème de nos États ici en Afrique face aux Occidentaux, c'est quand tu n'es pas tu fais pas de collaboration directe avec les institutions, des bailleurs de fonds et autres. C'est ça le problème. C'est ce qui gêne. Je pense que ceux qui ont mené ces enquêtes en accusant le Rwanda d'avoir faussé sur les statistiques ont des agendas cassés. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des agendas cassés derrière ça. Sinon, oui, la capitale Kigali, oui. Comment dirais-je, les immeubles plans 29 et le, comment dirais-je, les choses à niveau informatique et autres technologies et beaucoup d'autres choses dans le pays. Je vois que le Rwanda d'aujourd'hui n'a pas besoin de main tendue des autres pour accepter leurs enquêtes fantaisistes qui ont toujours empêché certains États africains de bouger. De voir les performances économiques qu'on donne aux Ivoiriens, aux Gabonais, aux... Vous voyez, le Rwanda n'a pas besoin de ça parce que l'État n'arrive pas à collaborer avec les institutions internationales. C'est ça le problème, c'est ce qui gêne les...
Oui, ils collaborent quand même, hein, Tierno. Hein. Merci beaucoup, Tierno, hein, qui voit finalement un moyen de discréditer le Rwanda. Je voulais dire que le Rwanda, hein, voilà... collabore, hein, contrairement à ce que disait Tierno, avec les institutions internationales, bien sûr, hein, dont la Banque mondiale, hein, qui soutient le pays, puisque depuis hein, 1994, hein, la Banque mondiale a investi hein, près de 4 milliards de dollars dans le pays. Patrick Mboyon, on vous a retrouvé. Dans un instant, on va écouter James. Je lui demande de patienter, puis je vous lirai quelques messages sur WhatsApp. Je vous repose ma question, Patrick Mboyon, sur les indicateurs socio-économiques, et notamment, je citais quand même un taux de 98% de scolarisation Rwanda, c'est pertinent comme indicateur de réduction de la pauvreté ?
Oui, ce sont les indicateurs qui sont intéressants sur papier, bien entendu, je précise. Ce sont des indicateurs intéressants avec la vision 2020 ou Mourenge dans laquelle la Banque mondiale a injecté de l'argent à hauteur de 70 millions de dollars pour répondre à votre auditeur qui pense qu'on on aurait à en vouloir au Rwanda. Les indicateurs de développement, l'indicateur de développement humain, IDH, a été, comme je le disais tout à l'heure, élaboré par le PNUD afin de pouvoir compenser l'aspect marchand et comptable du PIB. Je précise, le produit intérieur brut est en réalité la somme des valeurs, la valeur marchande, voilà, totale des biens et services produits dans un pays au cours d'une année. Mais ça regroupe simplement des revenus des expatriés et des nationaux sur les territoires. On ne sait pas si la richesse produite reste ou pas. Alors, on a inventé à côté le produit national brut. qui étudient simplement la richesse produite, de la valeur comptable, en soustrayant de cette richesse les revenus qui doivent être rapatriés dans notre pays, mais en ramenant aussi sur le territoire national des revenus produits par les entreprises, par exemple, à l'étranger. Et l'indice de développement humain est venu compenser ça parce qu'il n'y avait pas des éléments qui tenaient compte du progrès économique, du développement humain, c'est-à-dire l'indice, par exemple, écologique n'est pas compris dans les indicateurs de développement en matière de croissance et en matière de revenus, PIB et PNB. Donc c'est pour cela qu'on a inventé l'IDH. Mais l'IDH lui-même n'est pas complètement suffisant. Il a à l'intérieur des indices particuliers qui sont adaptés et qui comprennent des variantes pour des pays en voie de développement, notamment les pays subsahariens, pour les pays émergents, des pays du BRICS et autres, mais aussi pour les pays développés.
Il y a au moins et ce que vous dites, Patrick Boyau, je fais juste œuvre de pédagogie, je ne veux pas vous interrompre, mais finalement vous dites que les variantes incluses dans l'IDH varient, j'allais dire, selon la nature du développement du pays, c'est-à-dire qu'il y a un certain calcul pour les pays en voie de développement, un autre pour les pays émergents et un autre pour les pays développés, c'est ça ?
Exactement, c'est bien ça. Et par rapport à cela, on s'adapte. Le problème avec le Rwanda, c'est que le taux de scolarité paraît élevé, mais en même temps, nous retrouvons que lorsqu'il s'agit de financer des programmes en matière de nutrition de la population ou d'encouragement des populations en matière agricole, c'est-à-dire fournir les intrants agricoles, les bases, les semences et autres, on retrouve encore une forte demande de l'autre côté. Comment on peut avoir d'un côté des gens qui ont besoin d'être instruites, qui ont des difficultés, qui sont dans les programmes d'éducation. De l'autre côté, on a encore un grand nombre de gens qui sont au niveau de l'activité économique. Ça paraît contradictoire. Est-ce que ces gens qui vont, ou ces enfants, cette population qui se tourne vers l'éducation a le temps par la suite d'aller vers l'agriculture, et une agriculture qui plus est, c'est une agriculture de marché, c'est-à-dire une agriculture exigeante en termes de travail, en termes de conception, en termes d'élaboration. Donc ça paraît, si je vous donne ces deux éléments simplement, ça peut paraître factuel, mais ces deux éléments déjà suffisent à un moment donné pour se poser la question sur la réalité et la sincérité des données économiques fournies par le Rwanda, qui de toute évidence paraissent manipulées.
Ce qu'on comprend bien aussi, et surtout, c'est effectivement que l'insécurité alimentaire et que l'agriculture reste un point faible dans la politique de développement du pays. Merci Patrick Mboyo. Un petit message de Didier sur... je pense que ça va vous plaire, Patrick Boyau. Un petit message de Didier sur WhatsApp qui nous dit « Salut à tous, salut à tous les auditeurs d'Africa Radio ». Il dit « Pour moi, je pense que le vrai... » alors, il a dit le vrai terme français, mais c'est pas tout à fait ça. Ça doit être la vraie raison de la réussite du Rwanda, c'est le pillage de la République démocratique du Congo, nous dit Didier. Beaucoup d'observateurs soulignent régulièrement le paradoxe qui fait que... le Rwanda exporte du cobalt alors qu'il n'en a pas. C'est Sansi que je salue, qui nous dit juste bonjour. Ben, bonjour à vous, Sansi aussi. Et du côté du standard, c'est Diames qu'on retrouve. Bonjour Diames.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue dans le journal des auditeurs, Diames. Vous vous dites, le leur, c'est l'enquête qui laisse le Rwanda tranquille. Ce n'est pas la première fois que le Financial Times accuse le Rwanda et la politique de Kagame.
Oui, mais madame, on n'a qu'à avoir de la mémoire. On sait d'où le Rwanda vient. Il y a eu un génocide au Rwanda. Le Rwanda commence à travailler. Laissons-le le temps de faire leur travail. Ils font une enquête. Ça, c'est dans l'intention de déstabiliser encore le Rwanda. C'est les mêmes qui ont créé le génocide au Rwanda. C'est les mêmes qui reviennent. Il y a un auditeur qui a dit tout de suite que ça s'est passé bien à Kigali, mais à l'intérieur du pays, il y avait quelques problèmes. Je suis d'accord, mais les choses se font petit à petit. Si ça se passe bien déjà à Kigali, on dit Dieu merci. Les autres, ça va suivre. Mais on ne peut pas remettre tout ce que Kagame a fait. On ne peut pas dire c'est pas bon, que c'est du leurre. Je ne suis pas d'accord sur ça. C'était mon coup de gueule.
Vous l'avez passé, mon cher Diames. Merci beaucoup de votre intervention, Diames. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Un autre auditeur, c'est Babacar, je pense, qui nous envoie un petit message qui revient, lui, du Rwanda. Il dit bonjour à tous. Le miracle rwandais est bien réel. Il dit il n'y a pas de famine au Rwanda. J'y suis moi-même allé. Vraiment, chapeau à Kagame. On sent un dynamisme économique et social partout dans le pays et pas seulement à Kigali. Bravo, Mister Kagame, nous dit Babacar. Patrick Boyau, c'est vrai, en face à ces accusations, le président Paul Kagame a rejeté ces allégations en parlant de propagande occidentale pour discréditer son pays, hein, d'autant que le Rwanda investit beaucoup sur son image, hein, autant en interne qu'à l'international. Est-ce qu'on peut dire, Patrick Boyau, aussi que la bataille autour des chiffres de la pauvreté du Rwanda traduit aussi une bataille idéologique, en tout cas une bataille de communication ?
Moi, j'aimerais juste que les gens puissent avoir un peu la tête froide, qu'on puisse garder la tête froide, parce que on peut ne pas aimer Paul Kagame, on peut avoir idéologiquement des opinions diamétralement opposées, mais simplement, en tant que scientifique, il faut savoir respecter les chiffres et respecter le travail scientifique, quoi. J'ai sous les yeux beaucoup d'éléments qui... pendant que je vous parle, qui me conforte dans la pensée que le Financial Times n'a pas fait un travail hasardeux. Paul Kagame, c'est normal, c'est une rhétorique qu'on est habitué à entendre chez lui. Depuis longtemps, c'était rhétorique victimaire. Ce sont les mêmes qui ont commis le génocide qui reviennent. Mais pendant que les mêmes qui ont commis le génocide lui donnent de l'argent pour financer la construction du Kigali, bravo pour la construction du centre couvert, hein, le stade de Kigali qui a été inauguré la semaine dernière. Une très belle construction, on appuie, mais ça a été financé avec l'aide de qui ? Les mêmes personnes qu'on accuse aujourd'hui des génocidaires. Donc quand ça marche, quand ça va bien, tout va bien, on est des amis. Quand ça va mal, on revient sur le fonds du commerce du génocide. Et c'est justement ce fonds du commerce du génocide qui pose des problèmes aujourd'hui au Rwanda, qui fait que le Rwanda est aujourd'hui devenu un pays à sens unique, où on ne réfléchit que d'une certaine manière, où on ne pense, on ne parle que d'une certaine manière, parce que vous ne pouvez pas autrement des génocidaires ou des négationnistes. On ne peut pas faire des génocides de 1994, ce qui est quelque chose d'épouvantable. Et moi, je parle des génocides des Rwandais en général, parce qu'il y avait des Tutsis et des Hutus qui étaient morts, et pas que des Tutsis. Et je trouve que c'est épouvantable de se servir de ces morts, de ces tragédies, afin de pouvoir à chaque fois priver ses adversaires, ses contradicteurs d'arguments, et de pouvoir les réduire au silence. Non, ça ne marche pas.
C'est le point Goldwyn.
Oui, ça ne marchera pas comme ça, on y est habitué. À un moment donné, il faut dire assez. Les choses ne se sont pas passées comme Kagame le présente, on le sait bien, mais quand dans la réalité nous avons des éléments qui marchent mal, qui ne marchent pas bien, on le dit. Il y a des éléments intéressants, je viens de pointer la construction du centre omnisport de Kigali, je pointe des éléments intéressants au niveau du tourisme autour de Kigali et sa région, mais en dehors de Kigali et sa région, ça ne va pas, la population est dans la paupérisation, et dans la pauvreté, il faut l'admettre et le reconnaître. Et le dire, ce n'est pas s'attaquer à Kagame, mais d'essayer de rechercher le bonheur des Rwandais, parce que demain, quand ce sera corrigé et qu'on aura la réalité, c'est le peuple rwandais qui en bénéficiera. Et pour terminer, je voudrais juste, s'il me laissait quelques minutes, peut-être...
Ouais, allez-y, il nous reste encore 2 minutes.
À lire un article qui a été publié, ou une contribution dans un ouvrage publié et écrit par Rolf Meyer et Marc Raffineau, qui parle d'un article qui écrivent, leur article est intitulé « S'approprier les politiques de développement, nouvelle mode ou vieille rengaine, une analyse à partir des expériences du Burkina Faso et du Rwanda ». Ça a été publié en 2005. Il y a 14 ans passés. Donc, lisez, les chers auditeurs d'Africa numéro 1, et vous comprendrez que ce qu'on dit aujourd'hui, ce sont des éléments que certains avaient déjà découverts depuis plusieurs années.
Il y a un rapport de 2005 qu'on a bien compris. Je voulais juste préciser, puis on va bientôt arriver à la fin de cette émission, Patrick Boyau, qu'effectivement, l'auditeur tout à l'heure disait, Tierno, disait preuve que le pays va bien, il n'y a pas de demandeur d'asile. On peut quand même préciser qu'à défaut, il n'y a pas de demandeur d'asile, mais il y a quand même des exilés politiques, et d'ailleurs, je crois qu'un militant d'opposition et qu'un journaliste sont portés disparus au Rwanda depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup, Patrick Boyau, d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie. Merci aux auditeurs, c'est un plaisir de dialoguer avec eux.
Merci à vous, je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur. Un petit message peut-être avant de finir, c'est Juan, le retour de Juan. Bonjour Juan, il nous dit que les Congolais quittent les églises pour travailler au lieu de critiquer un pays minuscule de toutes leurs incapacités. Voilà, c'était le message de Juan. Merci à tous de votre participation. Vous entendez, on arrive à la fin de cette émission. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pu intervenir, continuez le débat sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hashtag JDA ou @JAuditeur, c'est notre compte Twitter, sur Facebook, bien sûr, facebook.com/journal des auditeurs, mais aussi sur le répondeur répondeur. Je redonne le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05. 33 1 55 07 58 05. Vous pouvez laisser vos messages, vos réactions à la situation du Rwanda, mais aussi vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité. Et vous pouvez aussi laisser un message pour vous inscrire à l'émission de demain, pour qu'on vous rappelle. Demain, je vous donne le sujet d'ores et déjà. On va parler du Soudan et de cet accord historique signé entre civils et militaires. Que faut-il attendre de cet accord pour participer? Laissez-nous un petit message sur le répondeur. Le numéro, c'est donc le 33 1 55 07 58 05. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute des programmes d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.